comment l'homme est capable, par le péché, par l'orgueil, de se détourner de Dieu. Voyez, si nous essayons de nous placer dans la perspective d'une réflexion philosophique en nous servant de cette grande tradition judéo-chrétienne, le philosophe a le droit d'interroger toutes les traditions religieuses pour essayer de découvrir à travers ces traditions religieuses quelle est la dimension de l'homme. C'est même peut-être ce que nous devons faire aujourd'hui d'une façon très particulière, en face de toutes les idéologies athées, essayer de nous remettre dans la perspective la plus profonde sur l'homme. Je précise bien, ce n'est pas un regard de foi. Oui, le regard de foi, c'est propre aux croyants. Donc je ne peux parler d'un regard de foi que pour les croyants. Seuls les croyants peuvent comprendre ce que nous pouvons dire à partir de Jésus qui vient nous sauver. Jésus qui vient nous reprendre à partir de notre faiblesse, de notre fragilité. La philosophie a cet avantage, elle pénètre moins loin que la foi, il faut bien comprendre. Mais la philosophie a cet avantage, c'est qu'elle parle à tout homme qui cherche la vérité. Tout homme qui cherche la vérité peut comprendre un langage philosophique à partir des diverses expériences que nous avons en tant qu'hommes. Et nous essayons de réfléchir sur ces expériences humaines pour découvrir à partir de là les dimensions profondes de l'homme. La philosophie a cet avantage aussi, c'est que c'est l'activité de notre intelligence qui, cherchant la vérité, essaie d'acquérir une certaine évidence. La foi a une certitude sans l'évidence. Elle a une certitude sans l'évidence parce qu'elle s'appuie sur l'autorité de Dieu. Alors, si vous acceptez cette autorité de Dieu, c'est très grand, puisque nous savons que par la foi, nous avons un regard divin sur l'homme. Et nous pouvons regarder l'homme comme Dieu le regarde, ce que le philosophe ne peut jamais faire. Le philosophe sait très bien que son intelligence est limitée, c'est un être créé, même s'il y a dans l'intelligence un désir d'aller toujours plus loin, et d'une certaine manière quelque chose d'infini, il y a quand même dans l'intelligence humaine des limites au point de vue pénétration. La preuve, c'est que je peux toujours progresser. Et mon regard philosophique aujourd'hui est plus parfait que celui que j'avais hier, ou avant-hier, ou l'année dernière. Normalement, sauf quand on commence alors vraiment à perdre un peu la tête, hein, c'est autre chose. Mais si nous maintenons en nous un progrès de vie intellectuelle, notre intelligence peut toujours aller plus loin. Je ne peux jamais dire, je m'arrête maintenant, j'atteins le sommet. Ni du côté de l'extension, ni du côté de la compréhension. Il y a quelque chose d'infini. Alors, comprenez bien, la révélation, les traditions religieuses, tout philosophe digne de ce nom, c'est-à-dire qui n'a pas d'a priori, parce que je crois que dès qu'un philosophe a des a priori, il n'est plus vraiment philosophe. Donc tout philosophe digne de ce nom reconnaît que les traditions religieuses judéo-chrétiennes sont les traditions qui vont le plus loin. Et je peux donc dire à un philosophe, nous allons ensemble regarder ces textes qui, pour le croyant, sont des textes qu'il regarde dans un regard de foi, mais pour un homme qui recherche la vérité, pour un philosophe qui recherche la vérité, ces textes représentent des textes qu'il doit essayer de comprendre, il verra ensuite si ce que dit l'Écriture correspond à une certaine expérience que je peux avoir. Ou si au contraire, il y a certaines choses qui apparaissent comme au-delà de l'expérience que je puis avoir. Voyez, ce qu'on fait au point de vue archéologique, il n'y a pas de raison de ne pas le faire du côté philosophique. J'avais un de mes bons amis dominicains qui était à l'école biblique, qui était archéologue, et qui me disait toujours cette chose très étonnante, que chaque fois qu'il creusait dans ses recherches archéologiques, qu'il y avait des textes parallèles à l'Écriture et à l'Ancien Testament, il voyait que toujours ce que l'Écriture nous disait correspondait bien à une réalité. On avait de la peine quelquefois de le découvrir exactement. On perdait quelquefois du temps, parce que les textes ne sont pas précis. Hein. On ne vous donne pas la longueur exactement. On cherche l'Arche d'Alliance, hein, et on pourra la chercher longtemps. Et on sait que c'est dans tel ou tel endroit que peut-être là a été déposée l'Arche d'Alliance. C'est possible qu'on la retrouve un jour. Il n'y a rien d'impossible. On retrouve des choses très étonnantes aujourd'hui. L'Arche de Noé, on sait très bien que on a plusieurs fois essayé de la retrouver, et on a dit qu'on l'avait retrouvée, et qu'au bout d'un certain temps, on dit que ça ne doit pas être tout à fait ça. Mais ça ne fait rien, on recherche. On peut très bien, au point de vue archéologique, qui est une connaissance humaine, avec une méthode humaine, voir si les textes sacrés correspondent à ce qui a été dit. Je peux très bien, au point de vue philosophique, vous voyez, prendre une attitude semblable. L'Écriture me parle de l'homme. Nous avions vu ensemble, par exemple, le début de la Genèse. Le début de la Genèse nous parle de l'homme et des dimensions de l'homme. Je peux rechercher cela d'une façon descriptive à travers l'Écriture et puis me demander, au point de vue de mon expérience humaine, est-ce que ces dimensions correspondent bien à certaines expériences que j'ai ? Et si ce que les traditions religieuses judéo-chrétiennes disent correspondent à l'expérience que j'ai, je me dis, tiens, l'Écriture m'a servi, m'a orienté vers une recherche de l'homme. Et ça m'intéresse beaucoup de voir que mon expérience, qui a une certaine évidence, qui me donne une certaine certitude humaine, vient corroborer au plan philosophique ce que j'ai regardé d'abord dans une perspective qui était vue de l'extérieur, puisque c'est une tradition religieuse, qui était une espèce d'opinion. Et quand le philosophe lit la Bible, ce qui est dit dans la Bible reste pour lui une opinion. Ce n'est pas une vérité absolue, ce n'est pas une vérité scientifique, ce n'est pas une vérité philosophique. Ça reste pour lui une opinion. Mais une opinion qui l'oriente, une opinion qui peut lui faire poser des hypothèses. Est-ce que ce qui est dit dans l'Écriture correspond à l'expérience que je peux avoir au niveau de mon expérience humaine ? Vous voyez, la perspective dans laquelle nous nous plaçons, hein, et je crois ça très important dans le monde d'aujourd'hui, parce que ça nous aide à mieux comprendre ce dialogue entre le philosophe et les traditions religieuses, qui a toujours existé chez les Grecs, qui a toujours existé dans l'Inde. C'est à partir de Descartes qu'il y a eu une rupture. Il ne faut pas l'oublier. Descartes a apporté certaines choses intéressantes, mais il a apporté aussi beaucoup de choses moins intéressantes. Et une des choses qu'il nous a apportées, c'est une rupture entre les traditions religieuses et la philosophie qui fait que la philosophie n'est plus conçue à partir de Descartes que dans une réflexion sur le cogito. C'est donc très court, hein, au point de vue philosophique. Si je suis intelligent, je dois comprendre que mon cogito, c'est très très bien, Mais il y a quand même aussi à côté de moi le cogito de celui qui est à côté de moi. Et si je peux comprendre que lui aussi n'est pas un imbécile et qu'il pense. Et si je peux rejoindre le cogito de gens qui ont vécu il y a 2000 ans. C'est quand même très intéressant de pouvoir rejoindre comme ça ce que je fais spontanément au point de vue pratique. Ce que je ne peux pas faire par moi-même, un autre le fait. Mon ami le fait. Et je considère que si c'est mon ami qui le fait, c'est très très bien. Ce que je ne peux pas faire par moi-même, l'ami le fait. C'est ce que saint Thomas dit, lorsque on considère que les philosophes, ce sont ceux qui ont recherché la vérité, ils sont tous des amis. Et donc on peut se servir d'eux, comme une extension de mon regard. Et c'est pour ça que tous les philosophes sont des amis auxquels je dois m'interroger auprès d'eux pour dire, qu'est-ce que vous dites, vous ? Alors, je peux faire ça, non seulement avec les philosophes, mais même avec les traditions religieuses. Les traditions religieuses veulent nous donner quelque chose de vrai sur l'homme, et même veulent nous donner une vérité ultime sur l'homme, au-delà de tout ce que les philosophes ont dit. Alors, je serai un imbécile. Il faut bien dire le mot, hein. Je serais un imbécile, c'est-à-dire un esprit extrêmement obtus, si je ne m'ouvrais pas à ce que peut représenter leur tradition. En comprenant que leurs traditions sont pour moi des opinions, c'est pas plus que ça, mais des opinions qui peuvent me servir d'hypothèse de recherche. Et me dire, est-ce que ce qu'ils disent correspond bien à mon expérience ? Bon. Je rappelle ça, hein, parce que c'est important. Nous cherchons un tout petit peu ensemble à découvrir la vision qui nous est donnée à travers l'Écriture sur l'homme. Alors, si je suis attentif à cette perspective, nous avions vu que tout de suite, dès le début, on montre l'homme comme image de Dieu. On montre l'homme comme ayant une capacité de transformation de l'univers. L'homme est créé comme le roi de l'univers, le dominium. Il a un pouvoir sur l'univers. Il a un pouvoir sur même les petits oiseaux et les poissons et surtout les animaux. Et Dieu l'a créé dans un jardin merveilleux, fait pour lui. La terre est pour lui. C'est quand même extraordinaire. La terre est donnée à l'homme pour lui, pour que l'homme puisse en user. Donc, il est très aimé de Dieu, puisque Dieu lui donne la possibilité d'user de tout ce qui est dans notre univers. Et cet univers, ce n'est pas lui qui l'a fait. Il le sait bien. Cet univers existe avant lui. Et cet univers est pour lui. Première dimension, qui est très belle. Or, qu'est-ce que je constate ? Je constate qu'en effet, l'homme use de notre univers. L'homme exploite, coopère avec notre univers. Et de temps en temps, il en use d'une façon telle qu'il le détruit. Son dominium sur l'univers a quelquefois des dimensions qui, à la place de coopérer, font qu'on exploite. Première dimension, le dominium. Ça, je ne peux pas nier, hein, que l'homme a un pouvoir sur l'univers, un pouvoir de transformer l'univers. Toute la grande philosophie du travail, elle est donnée tout de suite en premier lieu. Comme si c'était la chose primordiale que je devais regarder. La première chose que je vois dans l'homme, qui caractérise l'homme à la différence de l'animal, c'est que l'homme travaille. L'homme travaille, l'homme est capable de travailler. Et c'est une dimension proprement humaine. Et ça m'est affirmé tout de suite, comme le premier regard de Dieu sur l'homme, par où l'homme se distingue de l'animal. Second regard, l'homme est capable de nommer toute chose, l'intelligence. Oui, je suis obligé de reconnaître, et je reconnais, que l'homme a en lui une capacité de réflexion. plus ou moins profonde, suivant les individus, et que cette réflexion prend des dimensions extraordinaires. Et que notre XXe siècle a montré, au fond, comment ces dimensions de la connaissance humaine, qui sont très anciennes du reste, ça a commencé par les mathématiques, ça s'est continué par la philosophie, et puis après, c'est le développement des sciences modernes, physique, biologie, et puis toutes les connaissances. L'homme est capable de penser, de réfléchir, ça je ne peux pas nier. Il est capable de nommer toutes choses, même les étoiles, hein. Il les nomme à sa manière, puisqu'il projette son nom sur les étoiles. Quand je découvre une nouvelle étoile, je l'appelle par mon nom, par le nom du savant qu'il a découvert. Rencontrant un astronome qui est à Lyon, qui est merveilleux et qui est en même temps très spirituel, il me dit « Mon nom est inscrit dans le ciel ». Je lui dis « Tiens, tiens, vous êtes... mais oui, j'ai découvert quelques petits points lumineux, et alors on les appelle de mon nom ». Très très joli, mon nom est inscrit dans le ciel. Je dis oui, mais il faut peut-être aller un peu plus loin. Elle dit oui, il faut aller un peu plus loin, parce que si je reste là, je crois que je n'ai pas une sépulture pour plus tard. Alors il faut aller un peu plus loin. Et c'est vrai, mais c'est quand même très beau de voir cette connaissance humaine qui ne cesse de progresser. La connaissance est un don de Dieu. Dieu a donné à l'homme la connaissance par où l'homme se distingue de l'animal. L'animal a un instinct. Et l'homme a une capacité de réflexion et de comprendre, de penser. Puis, troisième dimension, l'homme est capable d'aimer. Et Dieu a créé la femme pour permettre à l'homme d'aimer. Ça, c'est dit dans l'Écriture, hein, c'est très net, c'est dit dans l'Écriture que l'homme a créé la femme pour réveiller l'homme. Parce que l'homme facilement se contenterait d'avoir un beau petit jardin, d'avoir une belle petite bibliothèque, d'avoir son métier, je comprendrais ça. Alors Dieu a créé la femme pour le réveiller, pour lui faire comprendre qu'il devait avoir une autre dimension, sa capacité d'aimer. Or, ça, je ne peux pas nier qu'en effet, l'intelligence, dans ce qu'elle a de plus profond, est au service de l'amour. Ce qu'il y a de plus grand dans l'intelligence, c'est d'éveiller mon cœur. Et de permettre à mon cœur d'aller plus loin. Il y a une capacité en moi d'aimer. Je vois que ces trois dimensions, hein, dominium, intelligence, amour, ces trois dimensions par où je suis, à l'image de Dieu. Ah, le philosophe ne peut pas dire, il met ça entre parenthèses, il dit « je ne sais pas encore très bien ce que c'est que Dieu ». Alors je ne dis pas, je ne sais pas, mais c'est peut-être vrai que l'homme est créé à l'image de Dieu. C'est peut-être vrai, c'est peut-être au fond ce qui est plus grand dans l'homme de dire que l'homme est créé à l'image de Dieu. Est-ce que c'est la définition de l'homme? Le philosophe peut se poser la question. Est-ce que la définition de l'homme, c'est de dire que l'homme est créé à l'image de Dieu? Et pour pouvoir dire que l'homme est créé à l'image de Dieu, il faut connaître ce que c'est que Dieu. Alors, dans l'enquête philosophique, hein, je découvre d'abord l'homme avant de découvrir Dieu. Donc je ne découvre pas en premier lieu l'image de Dieu. Alors là, je suis obligé de dire, ah, ça c'est un regard de foi. C'est un regard de foi. Dire que l'homme est créé à l'image de Dieu, ce n'est pas le philosophe qui dit ça. Le philosophe ne peut pas dire ça tout de suite. Parce que le philosophe n'a pas l'évidence de Dieu. Le philosophe rencontre des réalités, il rencontre parmi les vivants l'homme, il rencontre cet homme prodigieux dans sa capacité de transformer l'univers, dans sa capacité profonde d'aimer, mais le philosophe ne connaît pas immédiatement Dieu. Donc le philosophe ne peut pas dire tout de suite, en regardant l'homme, il est créé à l'image de Dieu. Mais il dit, c'est peut-être vrai. Alors ça c'est intéressant, parce que ça reste comme une interrogation. Est-ce que vraiment l'homme est créé à l'image de Dieu? D'abord, qu'est-ce que c'est que Dieu? Au point de vue philosophique. Qu'est-ce que c'est que le Créateur? Donc, j'ai là trois grandes interrogations au plan philosophique qui vont peut-être animer toute ma philosophie. Qu'est-ce que c'est que Dieu? Qu'est-ce que c'est que le Créateur? Est-ce que je peux dire que l'homme est créé à l'image de Dieu? Je peux aller un peu plus loin, toujours en me servant de l'Écriture, hein. c'est-à-dire en me servant de l'écriture, en lisant un peu ce qui est dit dans l'écriture, je vois qu'il y a un quatrième ou un troisième personnage, un quatrième personnage, parce que le triangle, c'est l'homme, la femme et Dieu. Ou, si vous voulez, le Créateur, l'homme et la femme. Voilà le triangle premier, le triangle de base. Hein. C'est celui-là. C'est du reste très beau. Il y a ce triangle de base sur lequel tout le reste va de fait apparaître. Mais il y a un quatrième personnage qui est très particulier, symboliquement le serpent. Le philosophe, lui, est obligé, en face de cette révélation du serpent, dire « ça, c'est un langage mythique. Est-ce que ce mythe contient quelque chose de réel ou de pas réel ? Je n'en sais rien en tant que philosophe. J'ai pas l'expérience de ce quatrième personnage. Comme je me suis posé la question « est-ce que Dieu existe ?» Je me pose maintenant la question, est-ce que le démon existe? Est-ce que le dragon existe? Est-ce que Satan existe? Je me pose la question, au plan philosophique, puisque c'est donné dans l'écriture, et que je n'ai pas l'expérience immédiate. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir l'action de Satan, l'action du serpent. Quelle est son action? Une action de détournement. Il est celui qui donne des fausses pistes. Adam et Ève étaient tranquilles. Ils étaient heureux. On avait l'impression que c'était très très pacifique. C'est très beau. Il y a ce quatrième personnage qui intervient et qui interroge. Ah, le démon a agi en interrogeant. Ça ne veut pas dire que toute interrogation est mauvaise. Hein. Le cardinal Journet aimait beaucoup de dire le premier dialogue qui est dit dans l'écriture, c'est le dialogue entre Satan et Ève. Tous les dialogues ne sont pas toujours bons. Et alors il soulignait ça en disant le premier dialogue qui est dans l'écriture, c'est le dialogue entre le serpent et Ève. Si Ève n'avait pas dialogué, nous serions peut-être un peu mieux. Mais Ève a dialogué, elle a accepté le dialogue, elle s'est laissée prendre au jeu. Quand on est en face de quelqu'un qui vous interroge, vous savez bien, surtout qui vous interroge avec intelligence, qui a l'air de s'intéresser à vous, on est toujours intéressé par quelqu'un qui s'intéresse à nous. Et alors, Ève, peut-être qu'Adam ne faisait peut-être pas assez attention à Ève. Je me suis toujours demandé ça. Pourtant, il ne devait pas pécher, ça devait être très très bien nommé. Est-ce qu'Adam interrogeait Ève pour connaître certaines choses ou est-ce que Adam n'avait pas besoin d'interroger Ève ? Il était tellement parfait. Quand on est très parfait, on n'interroge pas beaucoup quelqu'un pour savoir un petit peu ce qui se passe. Hein. Et voilà que le démon interroge Ève sur un point précis. Il a regardé Ève. Il l'a regardé vivre. Ah, vous n'avez pas le droit de manger du fruit des arbres. Mais c'est un sadisme terrible de la part de Dieu. Il vous met dans un jardin merveilleux et puis vous interdit de prendre du fruit des arbres. C'est effrayant, supplice de Tantale, ça. On voit très bien ce que dit le démon. Alors Ève réagit. Ah, pas du tout. Un seul arbre, un arbre mystérieux, un seul arbre. Pour tout le reste, on peut. Elle a livré le secret. Et dès qu'elle a livré le secret, elle est perdue. Sartre, qui n'est pas un père de l'Église, hein, dont je ne me sers pas directement comme père de l'Église, mais Sartre a dit dans son théâtre, parce que Sartre est surtout intéressant dans son théâtre, je crois L'être et le néant, ni rock des étudiants qui doivent passer leur agrégation, qu'ils le liront. Parce que je crois qu'en dehors de là, on ne le lit pas beaucoup. Ce n'est pas un livre très reposant, L'être et le néant. Vous savez ce qu'on racontait comme canular à Paris à propos de l'être et le néant au moment où c'est paru sitôt la libération. Alors il y a quelques... C'est paru juste à ce moment-là. Je ne sais pas sous quelle manière, parce que ce n'était pas commode de faire paraître des livres à ce moment-là. J'aurais dit que le livre de Sartre est paru juste à ce moment-là. Il y avait peut-être des petites complicités pour que ça puisse paraître à ce moment-là. Alors on raconte à ce moment-là que quelqu'un qui entrait dans une boulangerie voit sur la table du boulanger l'être et le néant de Sartre. Ça l'étonne. Le boulanger, entre deux, se met à lire son nouveau bréviaire. Il se met à lire l'être et le néant. Bon, dans une autre boulangerie, le lendemain, dans l'autre coin de Paris, encore l'être et le néant. Puis une troisième fois, je devais être encore un boulanger. L'être et le néant. Alors là, il dit, mais comment se fait-il? Vous ne lisez quand même pas l'être et le néant? Alors l'autre s'est mis à éclater de rire. Il me dit, mais c'est très simple. Nous n'avons plus de poids. Or, ça pèse exactement 500 grammes. Oui, alors ça, c'est merveilleux. Hein. Ça dit beaucoup de choses. Ça pèse juste 500 grammes. Alors, ça fait partie l'être et le néant. C'est l'être qui pèse 500 grammes. Sartre dit cette chose assez étonnante dans son théâtre à propos de la résistance. Il dit, quand quelqu'un qui avait été pris dans la résistance avait livré son secret, il n'avait plus aucune force. Tant qu'on garde un secret, on est fort. Et on peut lutter. Au moment où on livre un secret, on n'a plus aucune force. C'est très très beau ça. Parce que le secret est source en nous de silence. Un silence positif, c'est de garder un secret. Quand on garde un secret, on est comme noué dans ce secret. On est lié avec celui qui nous a communiqué ce secret et on est séparé des autres. Réfléchissez sur le premier secret que vous avez gardé dans votre vie. C'est très très beau. Sans faire de l'analyse psychologique et une psychanalyse, réfléchissez sur le premier secret qu'on vous a confié. Le premier secret. Un grand frère, une grande sœur ou des parents qui ont dit, voilà, ou un ami, je te dis ça, mais surtout ne le dis pas. Un secret positif. Hein. J'aime cette personne. Je compte me marier avec cette personne. Un secret comme ça, quoi, quelque chose qui est positif. Parce qu'un secret négatif, c'est pas du tout la même chose. Hein. Quelqu'un qui vous dit, je vais tuer cette personne cette nuit. Alors, c'est pas drôle à porter, hein, parce que je vais mettre le feu à cette maison cette nuit. Ça, c'est pas drôle à porter du tout, ce genre de secret. Ce sont des faux secrets. Ce sont des faux secrets, ça. Le vrai secret est toujours un fruit de l'amour. C'est toujours. Le vrai secret est porté dans notre cœur. Et quand un ami confie à son ami un secret, ils sont noués. C'est un nœud. Vous voyez, quand on dit que l'Esprit Saint, c'est un nœud. C'est le secret du Père et du Fils. Et il les noue. C'est très très fort. Un secret, ça noue deux cœurs. Et deux cœurs sont noués dans un secret. Et quand deux cœurs sont noués dans un secret, ils sont comme séparés de tous les autres. Tous ceux qui ne possèdent pas ce secret sont loin. Tandis qu'au contraire, celui qui m'a confié ce secret et moi-même, je suis un avec lui. Et je porte ce secret avec lui. Et alors par le fait même, il y a un grand silence. Vous voyez, le secret est source du silence intérieur. Quand on n'a pas assez de silence intérieur, c'est parce qu'on ne porte pas assez de secret. Quand on porte un secret, notre secret, c'est l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie, notre secret. Et toute parole divine doit devenir un secret. Chaque fois que la parole de Dieu est vivante en nous, au point de vue de la foi, au point de vue de la foi est porteuse de secrets. Un croyant, c'est celui qui porte des secrets. Et il est croyant dans la mesure où il porte des secrets. Et quand il ne porte pas ce secret, qu'il ne fait que réciter son credo, hein, sans rien y comprendre du tout, il ne porte pas de secrets. Tandis que quand il a eu l'action de Dieu sur lui, un passage d'amour de Dieu, de l'Esprit Saint, quand l'Esprit Saint a creusé, quand l'Esprit Saint nous a pris, alors il y a un secret. Il y a une blessure et une joie. C'est toujours ce que dit Sainte Thérèse. Chaque passage de l'Esprit Saint blesse et donne de la joie. Parce que c'est toujours un peu un glaive. Alors ça blesse, Et ça donne une très grande joie. Et alors, c'est un secret. C'est très mystérieux, ça. Et c'est très important, hein, la philosophie du secret. On devrait faire ça, la philosophie du secret. Parce que la philosophie du secret nous fait comprendre le lien entre l'intelligence et l'amour. Parce que c'est le lien entre l'intelligence et l'amour qui est un secret. Vous voyez, on voit toujours la distinction de l'intelligence et de l'amour. Hein. En mathématiques, il n'y a pas de secret. Sauf un mathématicien qui est en train de découvrir quelque chose que personne n'a encore découvert. Alors, tant qu'il n'a pas écrit son article, c'est un secret pour lui. N'est-ce pas ? Mais c'est un secret mathématique. C'est un secret très particulier. N'est-ce pas ? Normalement, il n'y a pas de secret. Les professeurs n'ont pas de secret. Ils communiquent ce qu'ils savent, ce qu'ils connaissent. Un secret, c'est entre deux personnes. C'est toujours entre deux personnes. C'est entre deux personnes qui sont liées dans l'amour. Et c'est la connaissance qui éclot dans l'amour. Une connaissance qui éclot dans l'amour, une connaissance aimante, affective, alors nous lie avec un autre. On est lié avec l'autre. Et si on est lié avec l'autre, on ne fait plus qu'un. On est un dans le secret. Et le secret fait... Plus il est substantiel, plus il est radical en nous, plus le silence est profond en nous. Un silence profond, c'est le fruit d'un secret qui nous saisit au plus intime de nous-mêmes. Alors c'est pour ça que j'aime beaucoup cette parole de Sartre. Ça rejoint ce que les pères de l'Église disaient. Quand Sartre dit ceux qui étaient dans le maquis, à cause de la torture, livrer leurs secrets, ils n'avaient plus aucune force. Et les pères de l'Église disent, ma force, c'est dans mon silence. Et le silence provient du secret qu'on porte. Quand la parole de Dieu en nous est une parole vivante et une parole aimante, comme la parole de l'époux pour l'épouse, la parole de l'ami pour l'ami, la parole du père pour son enfant, quand la parole de Dieu est reçue comme un secret, elle lie ce qu'est de plus intime en nous avec Jésus, avec le Père, avec l'Esprit Saint. Et à partir de là, il y a un silence intérieur. Elle était liée avec Dieu, avec Adam, dans un secret. Dans un grand secret. Et elle a livré son secret. Et dès qu'elle a livré son secret, immédiatement, c'est ça qui est étonnant, le démon pénètre. Et le démon pénètre en faisant cette espèce d'interprétation fausse de la parole de Dieu. Vous voyez, il se sert du secret pour montrer qu'Ève a très mal compris ce secret. C'est la chose la plus terrible, ça. Ève gardait ce secret comme un secret d'amour, qui la lie avec Dieu. Et le démon lui montre que ce n'est pas du tout un secret d'amour. C'est tout simplement parce que Dieu a peur. Et c'est pour ça qu'il interdit. Donc il renverse la signification profonde du secret. C'est la première herméneutique de la parole de Dieu, il ne faut pas l'oublier. C'est la première herméneutique, c'est une herméneutique qui conduit à la destruction de la foi. Ève a été séduite. C'est saint Paul qui nous dit ça. Séducta est. Elle a été séduite. Et parce qu'elle a été séduite, elle a perdu la foi. Et alors, à partir de ce moment-là, eh bien oui, elle s'exalte elle-même. Tant qu'on a la foi, on est obéissant à Dieu. On est petit en face de Dieu. On est dans la petitesse évangélique. Et on garde le secret de Dieu. Au moment où on perd la foi, à ce moment-là, il y a une destruction qui se fait. Mais formidable, hein ! Si on pouvait voir la destruction qui se fait quand il y a cette perte de la foi par l'orgueil. Par l'orgueil que la foi est tombée. Et le démon a entraîné Ève et Adam dans une fausse direction. La direction qui consiste à ne plus écouter Dieu. Non pas le nier. Adam et Ève ne pouvaient pas être athées. Mais ils pouvaient ne pas obéir par orgueil. Alors ici, réfléchissons au point de vue philosophique. Puisque nous prenons toujours la même méthode au point de vue philosophique pour essayer de comprendre. Bon, le personnage qui parle à Ève, je dis, c'est un mythe. Mais un mythe dont je ne sais pas la réalité exacte. C'est un mythe pour les croyants, c'est beaucoup plus qu'un mythe. C'est un symbole divin qui exprime une réalité profonde. Et selon l'Écriture, je vois bien que l'antique serpent est relié au puissant dragon, est relié à Satan et à l'adversaire, selon l'Apocalypse. Cette fameuse page de l'Apocalypse au chapitre 12, où il est montré ce lien entre le dragon et le serpent. Pour le croyant, c'est une réalité. C'est l'ange qui s'est révolté contre Dieu. Pour le philosophe, il ne sait pas. Pose un point d'interrogation. Est-ce que le philosophe pourra dire quelque chose sur Satan ? Est-ce que le philosophe peut dire quelque chose sur le serpent ? Est-ce que le philosophe, le serpent antique, qui tente Ève ? Au début, je ne sais pas. Je pose un point d'interrogation. Le résultat de la tentation, c'est de mettre Ève dans un état d'opposition vis-à-vis de Dieu. C'est mettre Ève dans un état de révolte, d'orgueil. Alors, c'est là où le philosophe peut réfléchir. Je sais par expérience, hélas, ce qu'est l'orgueil. Chacun d'entre nous. Personne n'oserait dire, je présume, qu'il ne sait pas par expérience ce qu'est l'orgueil. Il n'a toujours eu qu'une seule expérience, l'humilité. Je crois que nous savons tous au moins ce que représente la tentation d'orgueil. Même si nous ne sommes pas tombés dans des gros péchés d'orgueil, nous savons bien que ce que c'est que la tentation de l'orgueil, cette tentation d'exaltation. On veut être premier. L'orgueil, c'est l'intelligence qui veut avoir le dernier mot. Ce n'est plus l'intelligence qui est au service de l'amour, c'est plus l'intelligence qui permet à l'amour de pouvoir se développer. L'orgueil, c'est l'intelligence qui veut dominer et qui veut porter un jugement, un discernement ultime. Ça, je sais très bien ce que c'est que l'orgueil au plan philosophique. Et je vois en effet que c'est l'orgueil qui divise le plus les hommes. Ça, je peux le constater. Je peux constater que l'orgueil, c'est le rejet du primat de l'amour, c'est de vouloir mesurer toute chose en fonction de l'intelligence et de mon intelligence. Je rejoins là quelque chose que nous trouvons dans certaines traditions philosophiques. L'homme est la mesure de toute chose, par son intelligence. L'homme désire mesurer toute chose par son intelligence et tout ramener à lui. C'est une tendance très très profonde qui est en nous. Voyez, là, je peux dire, philosophiquement, je rejoins le venin du démon, du serpent. Ce venin, il est toujours un peu présent. Je sais que la grande tentation, la tentation majeure qui existe en moi, c'est l'orgueil. Ça, je peux le dire philosophiquement. Je peux dire que il y a dans l'homme une capacité de s'exalter et de se considérer comme le seul être intéressant. C'est ça l'orgueil. Si je regarde attentivement le texte de l'Écriture, je vois que après cette faute, il y a une punition de Dieu. Dieu intervient. Et l'homme est chassé du paradis terrestre. Là aussi, je peux le constater. Qu'à partir de cette faute, je ne peux pas dire à partir de cette faute, puisque ça c'est la foi qui me dit l'ordre. Mais je constate que l'homme, qui est moi, qui est mon voisin ou ma voisine, je constate que l'homme est dans un état de fragilité, dans un état de précarité. Ça, je crois qu'aujourd'hui, personne n'oserait dire l'inverse. Et toute la philosophie contemporaine, c'est la philosophie de la précarité de l'homme. C'est la philosophie de la faiblesse de l'homme. C'est la philosophie, encore Sartre, passion inutile. L'homme, passion inutile. Et donc, c'est vraiment la précarité de l'homme. Ça ne peut pas aller beaucoup plus loin, point de vue précarité, quand vous dites que l'homme est une passion inutile. Ça va très loin, même, de dire ça. Je constate que il y a en nous, vraiment, ces trois tendances. Tendance à l'orgueil, tendance à la grosse vanité, tendance à la jouissance immédiate, sensible. Je peux le constater, ça. Je peux constater que il y a, en opposition avec les trois grandes dimensions, dominium, intelligence, amour, par où je suis, comme dit l'Écriture, à l'image de Dieu. Les trois caractères positifs qui sont en moi, dominium, intelligence, amour, ça je peux le constater. Je peux constater trois tendances négatives, selon ce qui est montré dans l'Écriture. Tendance à l'orgueil, tendance à la vanité, tendance à la jouissance immédiate au niveau sensible. C'est curieux, hein, voir ces trois tendances positives, trois tendances négatives. Est-ce que je ne touche pas là quelque chose d'extrêmement profond en moi? Toutes ces fêlures, comme dit Kierkegaard, hein, toutes ces fêlures qui sont en moi, ces fêlures profondes que je constate, je peux constater en moi ça. Je constate en moi des capacités affolantes d'angoisse. Je constate en moi des capacités terribles d'aliénation. Je constate en moi des fêlures au niveau de la culpabilité psychologique. Je crois que là, nous pouvons tous, hein, philosophiquement, en réfléchissant sur ce que nous sommes, nous découvrons bien ça. Et nous découvrons positivement, parallèlement à ça, que cette angoisse lutte contre la sécurité, que cette aliénation lutte contre l'autonomie, et que De fait, la culpabilité lutte contre la valorisation. Ça, psychologiquement, je peux le constater, c'est très curieux. Je vois tout de suite que les tendances négatives se manifestent d'une façon très remarquable dans une réflexion psychologique. La psychologie, c'est la psychologie du pécheur. Ça, je crois. C'est la psychologie des fragilités qui sont en moi, des limites qui sont en moi, des fêlures qui sont en moi. Et je constate parallèlement à ces fêlures et à ces limites, je constate qu'il y a en moi des tendances positives. Alors vous voyez cette chose curieuse, hein ? Là nous rejoignons quelque chose de tout à fait actuel. Hein ? Charles Audier, qui est un très bon psychologue, il est mort, hein, qui était à Genève. Comme j'ai vécu longtemps à Fribourg, je connaissais bien certaines tendances des psychologues de Genève. Charles Audier, dans un livre très beau au point de vue psychologique, quand il parle de la formation progressive de la personnalité, nous dit qu'il y a comme trois grandes dimensions de la personnalité humaine. Je cite ça, c'est pour montrer que, comment l'écriture rejoint toutes ces choses-là, ou plus exactement, comment ces constatations actuelles, mais oui, nous font bien comprendre, mais oui, les trois concupiscences, c'est vrai. L'homme est fêlé depuis la faute. Hein. C'est bien évident, il y a en nous trois fêlures. Eh bien, Charles Audier, qui ne parle pas du tout du péché originel, hein, croyez-le bien. Tout protestant qu'il était, il ne parle pas du péché originel. Charles Audier, en psychologue, nous dit qu'il y a trois dimensions de la personnalité. L'autonomie, la valorisation, la sécurité. Et je crois que c'est très très juste. Cherchez bien, vous n'en trouverez pas d'autres. Il y a trois dimensions d'un moi personnel fort. Donc si je veux étudier ce que c'est que la personne humaine, au niveau psychologique, je reviendrai toujours à ces trois dimensions. Un moi fort, c'est un moi qui connaît son autonomie. Un moi fort, c'est celui qui a une certaine sécurité. Il peut, sans trembler, regarder demain ce qu'il fera. Et puis un moi fort, c'est celui qui peut regarder le passé, en disant « c'est pas si bête après tout, tout ce qui s'est passé ». Et donc il y a une certaine valeur en lui-même. C'est trois dimensions. Je peux parallèlement montrer les trois brisures de ces trois dimensions. Il y a trois brisures, trois fêlures de ces trois dimensions. Contre l'autonomie, il y a cette brèche qui consiste justement dans l'angoisse. Contre la sécurité, plus exactement contre l'autonomie, il y a l'aliénation. Contre la sécurité, il y a l'angoisse. Et contre le point de vue de la valorisation, la culpabilité. C'est quand même très curieux, hein. Les trois dimensions de l'homme, dominium, intelligence, amour. Quel est le fondement de toute valorisation ? C'est ma capacité d'aimer. Quel est le fondement de toute mon autonomie ? C'est ma connaissance. Quel est le fondement de toute sécurité ? C'est ma capacité de transformer le point de vue du dominium. Il y a un lien très direct, il suffit de réfléchir un peu. Et je vois que les conséquences du péché vont lutter directement contre cet épanouissement de ma propre personne humaine qui demande d'avoir son autonomie, d'avoir sa sécurité et d'avoir sa valorisation. Faisons attention, ne faisons pas de syncrétisme, hein. Comprenons bien cela comme des parallélismes. Il faut faire ça comme des parallélismes, il ne faut pas mettre égal, hein. Comme des parallélismes qui sont assez étonnants. Les trois conséquences du péché. Lutte contre les trois grandes dimensions de l'image de Dieu qui est en nous. Et je les retrouve au niveau psychologique, alors dénommé tout à fait différemment, mais je les retrouve au niveau psychologique. Alors c'est quand même très curieux cela. C'est quand même très intéressant de voir ce parallélisme entre les deux. Et de voir qu'il y a donc en moi six grandes dimensions. Si je me tâte le pouls au niveau psychologique, pour comprendre ce que c'est que ma personnalité humaine, je vois que ma personnalité humaine va se déterminer dans ces six grandes dimensions. Mon autonomie n'est jamais parfaite. Il y a donc en moi aussi une certaine aliénation. Ma sécurité n'est jamais parfaite. Il y a donc en moi aussi de l'angoisse. Ma valorisation n'est jamais parfaite. Il y a donc en moi aussi de la culpabilité. Si je regarde l'Écriture, je vois qu'à partir du péché, le démon ayant pénétré en moi, il va enlever l'équilibre des trois dimensions. Toute l'astuce du démon, c'est d'enlever ma capacité d'aimer. Ça, c'est le propre du démon. Enlever ma capacité d'aimer. C'est de faire que l'intelligence ne soit plus ordonné à cette capacité d'aimer, mais que mon intelligence s'oriente vers la domination. Et ça, c'est facile à regarder. Hein. Il suffit de regarder dans l'Écriture les conséquences du péché. Vous les voyez tout de suite. Hein. Je vous les rappelle, si vous connaissez suffisamment les 11 premiers chapitres de la Genèse, parce que les 11 premiers chapitres de la Genèse, c'est quelque chose de capital, hein. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est l'aspect le plus métaphysique, je crois, de toute l'Écriture, parce que c'est tout à fait les fondements, c'est les bases, hein. Alors qu'est-ce que vous voyez? Chassé du paradis terrestre, la jalousie qui s'introduit. Caïn qui tue son frère. Par jalousie. C'est une jalousie fraternelle et religieuse. Ce sont les plus terribles. Hein. Les jalousies fraternelles et religieuses, vous savez très bien. Alors quand elles sont pontificales, ça devient quelque chose d'assez affolant. N'est-ce pas ? Mais religieuse et fraternelle. Caïn qui tue son frère. Par jalousie. C'est la jalousie qui fait tuer. Vous avez ensuite... Hein, l'iniquité généralisée, l'homme qui ne respecte plus l'homme, et vous aurez le déluge. Vous avez la reprise de tout par Noé, et vous avez que tout se termine par la tour de Babel. Ponctuez tout simplement les 11 premiers chapitres de la Genèse. Et essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe. Le péché détruit l'harmonie voulue par Dieu. Alors, qu'est-ce qui détruit comme harmonie voulue par Dieu? Dieu voulait une harmonie parfaite entre le dominium, l'intelligence et l'amour. Et Dieu voulait que tout le pouvoir que j'ai me permette d'être un peu plus intelligent. Et que toute mon intelligence soit au service de mon amour. Un être bien harmonisé, c'est un être dont toute sa capacité d'efficacité est ordonnée à une ouverture toujours plus grande de l'esprit. Et son esprit lui permet d'aimer plus. Qu'est-ce que fait le démon? Le quatrième personnage. Il veut supprimer cette harmonie. Il veut rejeter l'amour. Il tue l'amour à l'égard de Dieu, il tue l'amour à l'égard du prochain. L'orgueil, la jalousie. L'orgueil et la jalousie sont les deux grands ennemis de l'amour. L'orgueil par rapport à Dieu, la jalousie par rapport au prochain. Et si l'amour est rejeté, alors c'est l'intelligence qui va s'exalter. Ou plus exactement, c'est l'intelligence en s'exaltant qui tue l'amour. Et quand l'intelligence s'exalte, l'intelligence alors s'ordonne, s'allie au dominium. On ne cherche plus qu'une seule chose, c'est à dominer. Et on veut dominer. Et on veut dominer pleinement et totalement. Je crois que c'est de fait ce que nous voyons autour de nous et en nous. Le mythe, la symbolise de la tour de Babel, le mythe de la tour de Babel, pour parler en philosophe, le mythe de la tour de Babel, mais il est visible. C'est l'orgueil collectif du monde, l'orgueil collectif des hommes qui fait qu'il n'y a plus de place pour Dieu dans l'intelligence et le cœur des hommes. Dieu est obligé de regarder un petit peu ce qui se passe. Vous savez, on voit ça. Hein? Dieu est obligé de regarder un peu ce qui se passe. Parce que les hommes ont construit une tour qui atteint le ciel. Alors, Dieu n'a plus de place. Et Dieu est obligé de regarder de l'extérieur. D'habitude, Dieu regarde de l'intérieur. Alors, si vous achetez Dieu de votre cœur, Dieu est obligé de regarder de l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait l'homme? C'est assez extraordinaire, cela. Le symbolisme de la tour de Babel. L'orgueil collectif des hommes aboutit à faire que Dieu n'a plus de place dans l'intelligence et le cœur des hommes. Est-ce que ce n'est pas l'annonce prophétique des idéologies athées? C'est l'homme qui, en s'exaltant par l'efficacité de son travail, il construit une tour qui atteint le ciel, qui, par l'efficacité de son travail, n'a plus besoin de Dieu. Et donc, il n'y a plus d'adoration, il n'y a plus de contemplation, il n'y a plus que l'efficacité du travail. L'homme s'est exalté d'une manière telle qu'il n'y a plus de place pour Dieu. Vous voyez comment, si je regarde attentivement les 11 premiers chapitres de la Genèse, hein, je peux dire que ce qui m'est montré dans ces 11 premiers chapitres de la Genèse, selon les traditions religieuses, hein, et les 11 premiers chapitres de la Genèse représentent bien les traditions religieuses les plus primitives. L'Esprit Saint s'est servi des traditions religieuses en les purifiant, en les dépouillant de tout ce qu'il y avait d'un tout petit peu grossier, pour me donner quelque chose de merveilleux comme schème. Eh bien, ce qui m'est montré là, sur la dimension de l'homme et de l'homme pécheur, la grandeur de l'homme et la décadence de l'homme, c'est ça que me montrent les 11 premiers chapitres de la Genèse. Il me montre la grandeur de l'homme dans la perspective de Dieu. Il me montre les déchéances de l'homme jusqu'à la tour de Babel. L'homme qui s'exalte en rejetant Dieu. C'est ça, j'allais dire, la décadence la plus terrible de l'homme. C'est que l'homme fait alliance avec l'homme pour chasser Dieu de son cœur. Ce sont toujours des fausses alliances, mais l'homme est capable de faire ça. Il est capable d'entrer dans cet orgueil collectif. Ce n'est plus un orgueil personnel. Quand c'est l'orgueil personnel, on peut encore le reconnaître. Mais quand c'est l'orgueil collectif, on ne le reconnaît plus. C'est nous tous qui sommes plongés dans un orgueil collectif. C'est beaucoup plus difficile, hein, de s'avouer pécheur quand on est pris dans l'orgueil collectif que de s'avouer pécheur quand on commet une faute personnelle. Et je crois que c'est cela qui caractérise notre monde d'aujourd'hui. Nous sommes pris par cet orgueil collectif. On croit, par le progrès de la science, de la technique, de pouvoir se libérer de l'attitude religieuse. On croit pouvoir redécouvrir par nous-mêmes toute la grandeur de l'homme. Orgueil collectif de l'humanité qui veut se passer de Dieu, qui veut ignorer Dieu, et rejeter Dieu. n'y a plus de place pour Dieu. Je crois que si nous sommes attentifs à ces 11 premiers chapitres de la Genèse, nous pouvons dire que nous sommes en présence, au plan philosophique, de ces 6 grandes dimensions de la personne humaine qui rejoignent bien ce que certains psychologues d'aujourd'hui peuvent dire. Il demeure des interrogations. Et nous verrons la fois prochaine si ces interrogations, le philosophe peut les dépasser ou s'il reste toujours en face de ces interrogations. Vous voyez bien, il y a 4 interrogations dans ces 11 premiers chapitres de la Genèse. Au point de vue philosophique, 4 interrogations qui demeurent. Dieu, est-ce qu'il existe? Est-ce que je peux en parler au plan philosophique? Le Créateur. Est-ce que je peux dire que l'homme est créé à l'image de Dieu? Est-ce que je peux parler de Satan? Est-ce que je peux parler du péché? Est-ce que je peux parler de l'orgueil? Est-ce que je peux parler de cet orgueil collectif de l'humanité? Oui, tout ça, c'est ces grandes questions qui demeurent. Il faudra la fois prochaine essayer de comprendre si ces interrogations qui demeurent, le philosophe peut y répondre. Si ce n'est pas tout l'effort de la philosophie d'y répondre. Et si c'est par là, c'est merveilleux parce qu'alors l'écriture éveille mon intelligence à me poser les questions principales au plan philosophique. Normalement.